Voilà, bon, merci d'être venu. Je vais commencer. Déjà, bon, je voulais dire que les photos, c'est mon frère qui les a faites. Et il a gagné un prix parce qu'il y avait un concours de photos au sujet du Brexit. Et c'était cette série, il a réussi. C'était un petit concours, mais quand même, c'est la première fois qu'il a gagné un concours. Donc, je suis très fier de lui. Ok, bon, bien sûr, c'est un peu une gageure d'advenir sur le Brexit le 22 octobre. Là, je viens de cours, là, j'ai vérifié les infos en août. Mais, qui plus est, moi je suis historien, alors la raison, quelle est mon excuse pour intervenir là-dessus? Bon, en fait, il me semblait que lors de la crise politique la plus profonde, au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale au Royaume-Uni, et il y a des gens qui disent, mais sans rire, que c'est la plus grande crise depuis 1660, et ça se défend tout à fait comme conception. Donc il me semblait inconcevable qu'il n'y a pas un lieu pour en parler, quoi. Il n'y a pas un lieu à l'université pour en parler. Un petit peu la tête froide. On va voir à quel point on réussit à garder la tête froide. Alors, bien sûr, le plus, c'est très excitant le côté match de foot. Qui est-ce que Boris Johnson va mettre en avant-centre et tout ça. Mais bon, souvent, on s'amuse à faire des spéculations, mais qui n'aide pas beaucoup. Alors, vous avez vu, alors là j'ai écrit, vous avez vu que Boris Johnson hier a partiellement réussi à faire voter son accord au Parlement. Voilà. Donc en fait, on va savoir plus tard ce soir. Mais on peut revenir sur la nature de cet accord dans la discussion. Mais au fond, c'est un accord qui abandonne les unionistes nord-irlandais. Car il viserait à mettre en place une frontière douanière entre l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Ce qui, par ailleurs, aurait pu être signé avec l'Union européenne il y a 2 ans. Mais bon. C'est aussi un accord qui promet moins en termes de protection des droits des travailleurs que l'accord proposé par Theresa May il y a quelques mois. Mais si cet accord est voté par la Chambre des communes, c'est évidemment une victoire rhétorique énorme pour Boris Johnson et, puisqu'il s'en suivra des élections très rapidement, une victoire même rhétorique peut être très importante dans une situation de haute température comme aujourd'hui. Alors peut-être on va finir par conclure que David Cameron, ancien Premier ministre conservateur, qui s'est exprimé samedi dernier, avait raison d'intervenir là-dessus. On lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Boris Johnson et il a dit le truc avec le porcelet graissé, c'est qu'il arrive à glisser entre les mains d'autres personnes là où de simples mortels échouent. C'est vrai que les temps ont changé. Dans le temps, si on voulait des insultes au sujet des premiers ministres, il fallait chercher les journaux de la gauche radicale. Maintenant, les anciens premiers ministres s'en occupent. Côté européen, pour rester, je commence une petite introduction sur la situation actuelle. Côté européen, moi je dirais que ce qui n'a pas trop été dit, je trouve que les dirigeants de l'Union européenne ont quelque part été très généreux avec Johnson. Ils n'étaient pas du tout obligés d'aller si vite. Et je pense qu'ils ne sont pas mécontents de soutenir Johnson, car même si... comme je vous montrerai, ceux qui parient sur la politique donnent 4 contre 1 que Jeremy Corbyn soit le prochain Premier ministre, mais même une chance sur 4, je pense que ça inquiète Angela Merkel et d'autres, et la perspective d'un gouvernement anti-libéral dirigé par Corbyn ne le plaît pas du tout. Je pense aussi peut-être ça les intéresse que le Royaume-Uni ne reste plus dans l'Union européenne dans la situation actuelle, parce qu'un gouvernement conservateur qui est resté dedans, ça pourrait être, bon, pas tout à fait du sabotage, mais disons qu'un manque d'une mauvaise volonté permanente. Alors, aujourd'hui, pour mon intervention aujourd'hui, évidemment, mon objectif n'est pas de vous convaincre de mon point de vue sur cette crise, ni de prédire ce qui va se passer dans le mois à venir, mais plutôt d'ouvrir des questions qui permettent de mieux comprendre. Et ce n'est pas facile, parce que même sur des questions qui pourraient, en principe, être réglé par la recherche, par exemple, les motivations principales qui ont fait en sorte que 17,4 millions d'électeurs aient rejeté le maintien du pays au sein de l'Union européenne. On pourrait penser, ça fait 3 ans, les sociologues, ils ont travaillé dessus, on pourrait penser que la question est réglée, mais pas du tout. Les différents sociologues ne sont pas d'accord parce que, voilà, il y a tellement de facteurs que la manière de les mesurer fait beaucoup de différence. Par ailleurs, et là c'est un constat un peu malheureux, et il ne me semble pas que parmi les supporters des deux équipes, la connaissance au sujet de l'Union européenne ait beaucoup avancé depuis 4 ans. Est-ce que les citoyens britanniques connaissent mieux aujourd'hui le fonctionnement du Parlement européen, de la Commission européenne, de la présidence européenne? Est-ce qu'ils comprennent les récentes décisions sur le budget militaire? Est-ce que la proposition d'une armée européenne et ses chances de se réaliser ou pas? Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu que les gens comprennent mieux ça qu'il y a 4 ans au Royaume-Uni. Alors que nous soyons prévenus par le titre, la saga du Brexit est très très loin d'être finie. Le titre de mon intervention Brexit Station 2, évidemment, c'est de l'humour, mais l'accord négocié par Theresa May et repris à 95% par Boris Johnson a laissé de côté des dizaines et des dizaines de sujets à discuter plus tard. Si cet accord est approuvé ou s'il y a sortie sans accord, il restera un nombre immense de sujets à négocier. Et ensuite, nous verrons de très nombreuses négociations pays par pays. Depuis 40 ans, d'innombrables structures, législations et pratiques ont été imbriquées sans que personne n'imagine qu'un jour, il y ait besoin de les démêler. Et alors, c'est d'une complexité énorme. Nous avons une idée assez vague, sur les conséquences à venir de cette séquence sur les fragiles compromis qui règlent actuellement les rapports entre les différents éléments constituants du Royaume-Uni. J'y viendrai à la fin de mon intervention. Et pour terminer l'introduction, je voudrais citer Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre de la Belgique et actuellement coordonnateur des négociateurs côté Union européenne. Il intervenait en Angleterre, au Congrès des libéraux démocrates britanniques il y a quelques semaines. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Le monde demain ne sera pas un ordre mondial basé sur les États-nations, ni sur des pays. C'est un ordre mondial basé sur des empires. Le monde de demain est un monde constitué d'empires au sein duquel nous les Européens, vous les Britanniques, ne peuvent défendre vos intérêts et votre mode de vie qu'en le faisant ensemble dans un cadre européen à l'intérieur de l'Union européenne. » Et la quasi-totalité des grandes entreprises britanniques étaient d'accord avec cette analyse. Et l'histoire du Brexit est quelque part celle d'expliquer comment cela se fait qu'une sortie est devenue quasiment inévitable malgré cet état de fait. Parce que, sans entrer dans des théories de conspiration, les plus grandes entreprises, souvent, elles ont une grande influence sur le type d'accord commercial que choisit un pays. Le point de vue de chacun sur ces conflits ou ces débats dépendra largement de si la personne considère que, oui ou non, il existe un intérêt national unifié des citoyens du Royaume-Uni, ou si les divisions sociales l'emportent sur les facteurs qui unissent les différentes classes sociales. Tout cela, c'est des introductions. Je propose d'intervenir sur 3 questions. Sur la division politique inédite qu'a produit le référendum. Ensuite, sur les identités. Est-ce que la division Leave-Remain a transformé durablement l'avenir de la vie politique en Grande-Bretagne? Parce que je suis historien, alors il n'y a que le durable qui m'intéresse. En troisième lieu, sur les partis politiques, pourquoi ils sont et resteront au centre des problèmes rencontrés et des solutions préconisées. Et enfin, sur la saison 2, quels sont les contours des prochaines étapes? Alors tout d'abord, donc, les divisions, les Anglais sont très divisés, c'est pas un secret. Ma mère a voté Brexit, ma tante pour le Remain. Ma sœur était plutôt Remain, moi j'étais plutôt Leave. Et ce n'est pas une famille atypique. Et cette ligne de division ne correspond pas à une division droite-gauche. Au niveau national, 58% des électeurs conservateurs ont voté Leave. 37% des électeurs travaillistes ont voté Leave. 30% des électeurs libéraux démocrates ont voté Leave. Pour les militants dans les grands partis, c'est un cauchemar. C'est également exprimé un très grand nombre de personnes qui n'avaient pas l'habitude de voter, car la participation a été historique, 72%, plus forte que toutes les élections nationales depuis 20 ans. Alors, je disais que ma famille et mon milieu n'étaient pas atypiques, et je le maintiens, parce que je sais qu'il y a, je connais des gens qui disent que tout le monde autour de moi votre livre ou tout le monde autour de moi, votre main, et bon, sans vouloir être peu généreux à leur égard, ça fait un peu ghetto de classe dans les deux, dans les deux cas, pas la même classe. Alors voilà, encore sur la division, mais vu de l'autre point de vue statistique, ici nous avons ceux qui ont voté Romain. Comment est-ce qu'ils ont voté à l'élection précédente? 39% des gens qui ont voté Romain avaient voté travailliste la dernière fois. 31% de ceux qui ont voté Romain avaient voté conservateur. 12% de libéraux démocrates. Et de ce côté donc là, Livre, 40% de ceux qui votaient Livre avaient voté conservateur. 21% avaient voté travailliste. 25% avaient voté UKIP, il s'agit du United Kingdom Independence Party, une partie de la droite dure qui a été très en vue pendant la campagne pour le référendum et qui était promis à un avenir glorieux et s'est effondré en petits morceaux quelques mois après, ce qui souligne comment il faut faire attention à ne pas faire des prévisions pour l'avenir actuellement. Bon, je vous montrerai quelques anecdotes sur l'UKIP, c'est assez spectaculaire. L'autre c'est la géographie. Ici vous avez donc le rouge foncé, c'est plus de 60% Leave, bleu foncé c'est plus de 60% Remain, c'est ça? Et alors, ce que je vous invite à regarder surtout, c'est la quantité d'endroits qui ne sont pas foncés. Voilà, c'est-à-dire où les gens, ils étaient quand même très divisés. Et je dis ça parce que je trouve que certaines analyses sociologiques ou géographiques, alors je dis géographiques, je veux dire basées sur le lieu d'habitation, donnent des titres de journaux simplistes. Les habitants de Londres ont voté effectivement en majorité pour le Remain. 2,3 millions de Londoniens ont voté pour le Remain. Mais avant de rédiger un billet d'humeur sur l'isolement et la différence profonde entre Londres et les provinces, n'oublions pas qu'1,5 million de Londoniens ont voté Leave. C'est-à-dire que c'est vraiment un pays très visé. La même chose s'applique par exemple aux minorités ethniques. On dit oui, voilà, les villes où il y avait plus de minorités ethniques ont voté Remain. Il y a eu des centaines de milliers de noms blancs pour voter Leave aussi. C'est une vraie division très très forte. En partie parce qu'il y a tellement de raisons différentes pour voter Remain ou pour voter Leave. On pouvait voter Leave parce qu'on trouvait que l'Union européenne faisait entrer trop de Polonais et Roumains. On pouvait voter Leave parce qu'on trouvait que des lois qui gèrent notre vie doivent être décidées en Angleterre et pas ailleurs. Très souvent, les gens votaient Leave parce qu'ils avaient compris que voter Remain, c'était un vote pour le statu quo. C'était ce que voulaient les deux grandes parties. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient le statu quo, c'était pas si intéressant que ça. Ok. Un autre moyen de comprendre s'il s'agit d'une division complexe, c'est de regarder certaines des organisations de médiation qui gèrent les différences d'opinion au sein d'une organisation activiste. Je prends l'exemple des syndicats. Chaque syndicat a pris position sur la question et c'est intéressant parce qu'en général, c'est après un large débat contradictoire entre militants plutôt bien informés. Alors, ils peuvent avoir tort, bien sûr, mais ce n'était pas sur le feeling. C'était des gros débats dans les congrès, et puis on vote pour une prise de position. La majorité des syndicats a décidé de soutenir Remain. Mais par exemple, le syndicat des enseignants, avec 300 000 adhérents, a décidé de ne donner aucun consigne de vote, parce qu'ils étaient tellement divisés sur la question. Et la Confédération syndicale unique, le TUC, prenait un position de soutien au Remain à contre-cœur, dressant avant tout un bilan du néolibéralisme européen dommageable pour ses adhérents. Aujourd'hui, pour revenir en 2019, les directions syndicales ont des positions variées. Certains syndicats restent en faveur du Remain, ou du Revenir en fait, mais certaines des plus grandes, Unite, 1,3 million d'adhérents, PCS, 200 000 adhérents, ne prennent pas position. Encore une fois, pour ne pas diviser les adhérents et dans l'espoir de mettre en avant plutôt le combat contre les conservateurs et leur politique d'austérité. Cependant, il paraît que des identifications politiques fortes et inhabituelles rendent difficile pour beaucoup de gens de reconnaître ces complexités. Ce n'est pas tout à fait l'affaire Dreyfus, mais Et c'est à une température qu'on n'a pas l'habitude. D'ailleurs, c'est pratiquement surprenant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a très longtemps, il y a 40 ans, il y avait un sketch des Monty Python sur une association un peu ridicule, dont l'objectif, c'était de poser des choses les uns sur les autres, dans notre constitution. Et tout le monde, bien sûr, tout le monde rigolait d'avoir une association aussi, qui mettait aussi autant d'énergie émotionnelle dans une procédé aussi stupide. S'ils avaient fait le même sketch sur des gens qui s'engueulaient sur s'ils se sentaient européens ou non, les gens, ils auraient rigolé autant à l'époque. C'était inconcevable que ça devienne une grande question de conflit entre personnes, d'être européen ou non. En tout cas, regardons ces identités de Remainer et de Leaver. Il y a quelques chercheurs qui ont travaillé dessus. Paula Sarridge de Bristol University a noté qu'il s'agit d'un phénomène entièrement nouveau. Il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, des individus de droite ou de gauche pouvaient être en faveur ou contre une collaboration étroite dans le cadre des institutions européennes. Mais cela ne constituait pas une identité politique. Simplement une opinion sur un petit sujet parmi les autres. Le vote lors du référendum de 1975 a été un vote donc en faveur d'un statu quo, de rester dans l'Union européenne. Un consentement, mais certainement pas un cri d'enthousiasme. Les identifications fixes avec les partis politiques, pourtant, étaient plus fortes à l'époque et aujourd'hui, cette nouvelle polarisation étrange s'est mise en place. Du côté des Remainers, nous avons vu l'apparition au Royaume-Uni de l'europhilie. On n'avait pas ça. On n'avait pas ça dans les années 70, les années 80, les années 90. Donc ça, on a vu des manifestations de dizaines de milliers de personnes avec des drapeaux européens en tête de manifestation. Samedi dernier, il y avait des centaines de milliers de manifestants à Londres. Certainement pas un million, mais bon, quand même des centaines de milliers de manifestants à Londres. C'est très significatif. Londres n'est pas Paris et ne voit pas souvent des manifestations de cette taille-là. L'affaiblissement des revenus des retraités, par exemple, a été infiniment plus sévère au Royaume-Uni qu'en France, mais Londres n'a jamais vu des manifestations de masse comme à Paris à ce sujet. Cette europhilie, comme je le disais, n'existait absolument pas avant. Dans les années 70, notamment quand le Royaume-Uni est entré dans les institutions européennes. C'est à la sortie de la Deuxième Guerre, il semblait essentiel, voire urgent aux élites français et allemands de mettre en place de nouvelles structures de collaboration. Aux élites britanniques, moins déchirées par la guerre, une simple coopération pragmatique semblait suffire de plus, ayant le choix entre une concentration commerciale sur ses voisins européens, ou sur les États-Unis, ou sur les anciennes colonies britanniques. La motivation pour participer au projet européen était, on va dire, fluctuante. Avec la seule exception de Edward Heath, il n'y a pas eu de premier ministre britannique véridiquement europhile. Mais, j'ai entendu ce matin, sur les 7 premiers ministres conservateurs depuis 1963, dans 6 cas sur 7, la question européenne a fait partie des facteurs qui les ont fait chuter à la fin. Donc c'est le poison chalice, on peut dire. Là, on a aussi donc pour l'identité des Remainers, donc on a les manifestations, et on a aussi donc là aujourd'hui donc le Second Referendum Campaign. We demand a people's vote. Il y a eu énormément de signatures très rapidement. Le Letter from the People to the Powerful. Ça, c'est la campagne aujourd'hui pour un deuxième référendum. Alors, je pense qu'il y a des éléments d'identité plutôt que politique pragmatique là-dedans, parce que si on veut convaincre des gens de changer d'avis et vous rejoindre, il me semble moyen comme tactique de dire « nous sommes le peuple et vous non ». Donc c'est une campagne « for a people's vote ». Et alors ça pose la question, c'est qui a voté en 2016? C'était pas aussi people. Ça me semble assez, comment dire, identitaire comme approche. Il y a eu précédemment, il est vrai, des tentatives d'exprimer l'europhilie lors de l'entrée de l'Union, du Royaume-Uni dans la communauté économique en 73. Il y avait une tentative, il y avait un festival organisé par les pouvoirs publics, Fan for Europe. Ce n'était pas un succès. Il y avait bien un match de football. C'est Bobby Charlton, hein. Une équipe des trois nouveaux pays qui rejoignaient la CE et les six qui étaient déjà. J'ai oublié le résultat. Et il y avait également une performance spéciale d'un ballet pour fêter l'entrée de du Royaume-Uni dans la CE. Et quelques mois plus tard, à Ascot, donc la course de chevaux de l'élite, il y avait, il porte toujours des chapeaux extraordinaires à cet endroit, et elle avait décidé de faire ce chapeau où on a les noms des membres. Mais bon, c'était anecdotique. Les gens, ils disent, oui, bon, on a voté un traité, c'est bien, il faut bien voter des traités. L'europhilie, ça n'existait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les identités? Il y a une autre chercheuse, Sarah Hobolt, du London School of Economics, qui a analysé les identités Leave et Remain en se basant sur un échantillon représentatif de 18 000 personnes. Il en sort que 75% de la population est attachée à une identité Leave ou Remain. Ce qui est énorme, c'est les identités qui restent stables mois après mois et qui sont 3 ou 4 fois plus forts que les identifications aux différentes partis politiques. Alors la constitution de ces identités permet à chacun des groupes de caricaturer l'autre. Selon pas mal de Remainers, l'essentiel des 17 millions de Leavers serait constitué d'idiots racistes sans espoir. Selon beaucoup de Leavers, l'essentiel des 15 millions de Remainers serait constitué d'élitistes motivés par un mépris de classe qui refusent de respecter une décision démocratique. Pour beaucoup de Remainers, l'Union européenne est devenue un symbole de l'internationalisme et de tolérance. Pour beaucoup de Brexiters, un symbole d'un manque de démocratie et de prise en compte de la volonté populaire. Il n'est pas surprenant, et en fait c'est de bonne guerre, que la campagne dans les semaines avant le référendum ait donné lieu à des affiches plus ou moins rationnelles. On avait d'abord des affiches relativement rationnelles avec des arguments avec lesquels on peut être d'accord ou ne pas d'accord. Là, c'est une des campagnes officielles du Yes qui souligne voilà qu'il y aurait plus d'emplois. Et là, c'est une des affiches du campagne pour le non qui met encore une fois qui met en avant des arguments avec lesquels on peut être désaccord, mais qui sont de type rationnel. Par contre, et c'est intéressant, ce n'est pas les campagnes officielles, mais les groupes autour, il y a eu cette célèbre affiche émotive par le UKIP, donc par un groupe minoritaire, qui suggère que le problème de l'Union européenne, c'est, bon, il faut savoir lire les affiches, bien sûr, c'est de laisser entrer énormément de gens, de réfugiés menaçants. Enfin, ils n'ont pas l'air si menaçants que ça, en fait, quelque part. Mais c'est quand même l'idée d'une énorme... Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur cette vision. Comme l'idée du danger, c'est aussi la perspective que ça nous tombe dessus. Et plus gentillé, mais pas moins émotionnel, un groupe du côté de Remain qui sort des arguments de ce type-là qu'on ne peut pas considérer vraiment comme des arguments rationnels. Alors, concernant les résultats d'un Brexit, cette même Sarah Hobolt a remarqué, bon, sur les résultats de ces sondages, que les Remainers ne voient aucun résultat positif d'un Brexit, uniquement des éléments désastreux. Les Leavers sont un peu moins univoques, mais voient des résultats massivement positifs. Il ne semble pas exister un consensus atteignable au milieu. En Norvège, ils ont eu deux référendums en fait sur l'Union européenne. Et quand ça a été, quand le rester en dehors a gagné, mais de très peu, ils ont négocié avec l'Union européenne une collaboration très étroite, restant en dehors de l'Union européenne, mais ils ont négocié une collaboration très étroite qui faisait un petit peu consensus parce que ça avait l'air de respecter à la fois ceux qui voulaient sortir et ceux qui voulaient rester, qui étaient moins nombreux, mais très nombreux. mais cette option ne semble pas avoir été pour l'instant atteignable en Angleterre. Est-ce que ces identités vont perdurer? Certains commentateurs pensent que les identités Leave et Remain vont perdurer pendant de nombreuses années. Que cette nouvelle, que ça va remplacer la division droite-gauche avec ce qu'ils analysent comme ouverture-fermeture. Moi, je suis franchement pas vraiment convaincu. Alors, ces gens, ils disent, s'il y a le Brexit, on gardera des millions de raging Remainers, et si le résultat du référendum est renversé, on aura des millions de bitter Brexiters. Moi, mon impression personnelle, c'est que d'ici 5 ans, on aurait passé à autre chose, mais je ne peux pas le prouver. Je voudrais passer aux partis politiques. Pour comprendre la crise actuelle, il est indispensable de passer par une compréhension assez détaillée du rôle des partis dans la politique britannique. Trop de commentaires journalistiques en sont restés sur des analyses où les seuls acteurs sont Johnson et les Anglais, comme Massin différencié. Que vont penser les Britanniques de l'action récente de Boris Johnson est une question en fait interlimitée, parce que ce qui va compter, c'est comment cette action va pousser au nom des électeurs indécis, ou aujourd'hui des députés indécis, d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme spécifique qui est mis en place, c'est pas... l'opinion publique en soi ne pousse pas le changement. Mais si le changement politique passe par les partis, les deux grands partis sont largement avantagés par un système électoral à un seul tour qui ne va pas être modifié et qui est largement préféré dans tous les sondages par les Britanniques. C'est très important parce que dans une période où la reconfiguration de politique est chose ordinaire, en France on a vu le Parti socialiste s'effondrer, en Espagne il y a des recompositions très importantes, alors le système électoral à deux tours, ça aide la reconfiguration. Ça permet de tester une nouvelle force politique au premier tour, quitte à voter pour le grand parti au deuxième tour, si à mesurer ses forces sans faire gagner la droite, si on prend du... et vice-versa aussi, pour la recomposition de la droite, en France ou ailleurs, le système à deux tours le rend plus facile. Le système à un seul tour veut dire que la reconfiguration est forcément plus explosive. Parlons donc d'abord du Parti conservateur, 190 000 membres, 36% des conseillers municipaux dans le pays, 288 députés. Il a changé depuis les années 50, quand il est près de 3 millions de membres. Il a dû devenir moins conservateur, a soutenu le mariage pour tous, etc. Ses membres sont assez âgés dans l'ensemble. Fondé même au cours de la première moitié du 19e siècle, il était fondé avant l'arrivée de la démocratie de masse, c'est le plus vieux parti politique en Europe. Il est au gouvernement depuis 2010 et il a pu mener une politique néolibérale beaucoup plus poussée qu'en France. Je ne peux donner que deux ou trois exemples. Conversion de l'essentiel des retraites en système d'investissement individuel privé, privatisation des prisons, imposition de gestion managérielle de type privé dans les écoles. Si vous êtes un enseignant au collège en Angleterre et les résultats ne sont pas très bons en maths, le directeur peut vous virer et embaucher quelqu'un d'autre à un meilleur salaire, avec comme objectif d'augmenter les résultats d'examen. Donc c'est vraiment... Alors ce n'est pas privé, parce que les élèves ne payent pas, mais c'est un système managériel de type privé. Donc beaucoup plus loin qu'en France. Et bien sûr, il y a le nouveau film de Ken Loach qui va sortir, là, Sorry I Missed You, pour donner une vision saisissante des dégâts. Le rapport des Nations Unies de mai 2019 conclut qu'il y a 14 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et 1,5 million des gens qui ont moins de 10 livres par jour après avoir payé le loyer, pour donner un peu une idée de pauvreté absolue. Donc ça, c'est un peu la situation. Alors, où en est le Parti conservateur là-dedans? Donc, ils ont mené cette politique et ils en sont, dans l'ensemble, fiers. Hein, ils mettent en avant le chiffre du chômage qui est relativement peu élevé. C'est intéressant, il parle plus de Margaret Thatcher. Hein. Vous lisez les manifestes ou le site du Parti conservateur, on ne parle pas de Thatcher. Hein, ils ne sont pas si fiers que ça. Elle a laissé une image dont ils ne veulent pas. Mais bon, bien sûr, ce gouvernement en crise profonde, déjà Theresa May avait accumulé une série de records pendant ses trois ans en tant que Premier ministre. Elle a été condamnée par un vote à la Chambre des communes d'outrage envers le Parlement, la première fois dans l'histoire. Quand elle a refusé de fournir les détails des conseils juridiques concernant la sortie de l'Union européenne, elle a perdu un vote à la Chambre des communes sur son accord par 230 voix. Il y avait 202 voix pour et 432 contre. En général, les premiers ministres démissionnent quand ça arrive, mais non. Donc, elle a perdu trois autres. Mais, quelque part, Johnson est allé encore plus loin. Il a exclu tout récemment du groupe parlementaire conservateur 21 députés, dont plusieurs anciens ministres, et pour l'anecdote, le petit-fils de Winston Churchill. Un des exclus était député conservateur depuis 49 ans. Et alors, ce n'est pas vraiment une anecdote parce que c'est une tentative de reconfigurer le parti conservateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le parti qui ne vont pas oublier, même d'ici 5 ans, que Johnson a viré un député qui l'a servi pendant 49 ans. C'est-à-dire qu'il est prêt à, en fait, il est prêt à perdre toute une partie du parti conservateur parce qu'il pense que ça peut être reconfiguré avec un nouveau type de politique. Qui est Johnson? Est-ce qu'il ressemble à Trump? On aime bien se moquer de lui, bien sûr. Alors les deux, Johnson et Trump, ont des attitudes ouvertement arriérées concernant les femmes, les homosexuels et les minorités ethniques. Il y a quelques années, Johnson écrit un article grand public, quand il est journaliste, sur le congrès du parti travailliste, consacré à savoir si les nouvelles députées travaillistes femmes étaient canons ou pas. Mais il a utilisé un mot, comment dire, pas franchement vulgaire, mais encore beaucoup moins poli que canon. Deux ans plus tard, il déclare son opposition à une tentative à la BBC de rendre l'institution plus ouverte envers les homosexuels. Et il écrit « Si le mariage gay est bien, pourquoi on ne pourrait pas se marier avec son chien ?» Donc vraiment les plus réactionnaires imaginables. Tout récemment, on a entendu proférer des insultes homophobes à la Chambre des communes et aussi envers celui qui l'a traité de porcelet graissé, lui il l'a traité d'antello efféminé. Voilà, c'est de bonne guerre. Alors Johnson a mis en place une stratégie risquée qui ne met pas seulement en danger la cohésion du parti. Un des députés exclus a déjà annoncé son intention de se présenter pour la mairie de Londres contre le candidat conservateur officiel. Johnson espère reconfigurer la droite autour d'un néolibéralisme dur en dehors de l'Union européenne. Il ne fait pas ça par conviction politique approfondie. C'est très connu qu'il y a quelques années, il avait écrit deux articles, un pour l'Union européenne et un contre, et il n'était pas sûr quelle était la voie politique qu'il allait prendre. Est-ce qu'il peut reconfigurer une droite triomphante? On ne peut pas savoir. Il sait que la grande majorité des grandes entreprises étaient en faveur du Remain. Et alors, il essaie de le proposer des contreparties. Il espère ou il suggère qu'il peut construire un Singapour sur Tamise avec beaucoup moins de régulation sur les droits des travailleurs, sur les critères écologiques, etc. C'est le sens des rumeurs qui courent ce mois-ci concernant autour du Parti conservateur concernant la possibilité de relever l'âge de la retraite jusqu'à 75 ans et de supprimer purement et simplement les impôts sur la succession. Donc il sait que les grandes entreprises sont plutôt remaines, mais sont flexibles aussi. Et alors il dit s'il peut leur donner des contreparties, ça pour y aller. Ce n'est pas un chemin facile. En plus des grandes entreprises, 75% des députés soutenaient le Remain. S'il reste politiquement, pour l'instant, je pense, impossible de revenir dans l'Union européenne, une grande partie de l'establishment aimerait rester très proche dans l'Union douanière, par exemple. Et alors le problème qu'ils ont, c'est qu'actuellement, la direction du Parti travailliste est très à gauche. Et alors même si quelque part la position de la direction travailliste sortant de l'Union européenne et restant de l'Union douanière, quelque part ça pourrait arranger les grandes entreprises, mais c'est allié avec un programme de gauche radicale très radical justement. le conservative post de 2015, let's stay on the road to a stronger economy. Voilà, et donc ils mettent en avant les chiffres qui défendent comme le bilan économique. Aussi, il s'attaque à Jeremy Corbyn, je vais en parler. Il s'attaque à Jeremy Corbyn et l'idée là, c'était que voilà, totally spineless chicken, ça vole haut, comme vous le voyez. Je ne sais pas si ça a été très efficace en fait, parce que il y a eu d'innombrables détournements en faveur de Jeremy Corbyn. D'ailleurs, ils ont choisi une photo, ils en sortent pas trop mal, je pense. Voilà, donc je me répète un peu, mais la cause fondamentale de la crise du parti conservateur est une cassure entre la base sociale du parti et la politique du gouvernement. La quasi-totalité des grandes entreprises britanniques voulait le Remain. Il y avait même une majorité de Remain parmi les députés conservateurs. Mais une fois que le Leave avait gagné le vote, la position de la direction du parti conservateur était que la décision devait être respectée. Pas fondamentalement à cause d'une envie de respecter la démocratie, mais en pensant que c'était politiquement impossible de le gérer autrement. La dernière fois que cette cassure a eu lieu, c'était en 1846, quand le gouvernement conservateur a aboli un protectionnisme concernant les tarifs sur les céréales importées. Ils ont adopté cette réforme qui lésinait que n'aimait pas les propriétaires terriens. Le résultat est une scission du parti et il n'y a plus eu de gouvernement conservateur pendant 30 ans. Chaque fois qu'il y a une crise au parti conservateur, quelqu'un va dire on ne veut pas se retrouver là où se retrouvait Robert Peel. C'est le fantôme de Robert Peel qui hante le parti conservateur. Passons donc au Parti travailliste. 245 députés, 6000 conseillers municipaux, 32% du total, 490 000 membres, dont 48% des femmes. Je donne ce chiffre parce que c'est beaucoup plus que dans les autres partis politiques anglais. Alors, cette crise profonde politique arrive en même temps qu'une transformation historique du Parti travailliste. Et tout observateur sérieux est obligé de se poser la question de savoir s'il y a un lien entre les deux processus. Oui, spoiler. Depuis plusieurs années, dans une série de pays, le consentement au néolibéralisme a vu sa base rétrécir. Et donc, un espace électoral s'est ouvert pour des forces politiques antilibérales. Au Royaume-Uni, ceci a eu des effets particuliers, puisque le Parti travailliste regroupe depuis très longtemps l'ensemble de la gauche institutionnelle. C'est un peu comme si en France, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, Dominique Strauss-Kahn et Fabien Roussel étaient tous dans le même parti et ne voyaient pas comment en sortir à cause du système à un seul tour. Le Parti travailliste était dominé, vous le savez, entre 1994 et 2015, par la droite du parti, inspirée par la troisième voie de Tony Blair, qui avait même changé le nom du parti, se référant à New Labour. Et ici, on voit à la télé demain soir le pape dire « J'ai décidé de changer le nom de l'Église, ça va être la nouvelle Église catholique ». On va être très choqués, parce que si on change de nom pour mettre « nu », c'est pour dire que l'ancien était mauvais. Donc la nouvelle version du Parti travailliste revendiquait ouvertement son attachement au marché comme régulateur principal de la société, s'opposait à la nationalisation, tentait de se détacher au maximum de l'influence syndicale, etc. Mais la colère grandissante contre l'austérité néolibérale n'avait pas une autre structure politique électorale. Et ce courant antilibéral de gauche a pu gagner la direction du parti en 2015 autour de la candidature de Jeremy Corbyn, vieux militant de base qu'on pouvait voir dans toutes les manifestations et rassemblements, même tout petit à Londres depuis 40 ans. Je connais 30 personnes qui le connaissent personnellement. Et ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre, c'est parce qu'il les a aidés avec un petit truc il y a 15 ans, quand quelqu'un s'était fait licencier, ils avaient besoin de soutien d'un député. Il était dans toutes les petites choses. Il a réussi à survivre à la tête du parti malgré une tentative de révolte par la majorité des députés qui étaient souvent recrutés sous Blair et ils ne s'attendaient pas à avoir affaire à des idées socialistes. Ce n'était pas dans la description de l'emploi. Alors Corbyn se trouve immédiatement attaqué par les médias bien sûr, mais au moins autant par une majorité des députés travaillistes. quand elle est confrontée à une campagne de diffamation d'envergure historique. En 2016, une année après sa première élection, les députés travaillistes ont forcé une nouvelle élection pour les dirigeants du parti et ils ont voulu empêcher Corbyn d'être candidat à sa propre succession. Ça allait aller assez loin. Si je me rappelle bien, il y avait une bataille juridique pour qu'il ait le droit d'être candidat à sa propre succession. Il a gagné très largement avec 313 000 voix, 62%, contre 193 000 voix, 38%. Et lors des élections de 2017, qui étaient appelées par Theresa May avec l'espoir d'augmenter sa majorité, mais qui ont éliminé sa majorité, il a eu un résultat honorable. Alors pourquoi il a pu faire ça? Pourquoi l'équipe travailliste a pu faire ça? Bon, je pense que l'équipe militante y était pour quelque chose. Ils ont vraiment des dizaines de milliers de gens qui vont frapper sur la porte des gens. Mais aussi, une fois que la campagne électorale commence, ils sont obligés de donner la moitié du temps, autant de temps à Corbyn qu'à le dirigeant conservateur. Et pendant les années avant, en fait, c'était un petit peu étrange parce qu'ils avaient encore une vague obligation d'égalité. Mais ce qu'ils avaient souvent, c'est deux conservateurs et deux députés travaillistes dont les deux détestaient Corbyn. Donc vraiment de la droite du parti. Et alors le corbynisme n'était pas présent. Et pendant la campagne électorale, ce n'était plus possible. Et alors, qu'est-ce qu'il veut faire la direction du parti travailliste? Bon, évidemment, il est confronté à plusieurs défis, ou plusieurs problèmes si vous préférez. Naviguer la question du Brexit, j'en parlerai dans un instant. Communiquer, malgré des médias très hostiles, son programme, et faire croire aux électeurs que ce n'est pas utopique, que l'argent existe, etc. Évidemment, il n'y a aucune garantie, mais l'équipe travailliste a un certain nombre d'atouts, ayant emporté contre toute attente trois défis précédents. Donc ils ont, comme j'ai dit, des dizaines de milliers de militants, donc près de 500 000 militants, dont la moitié sont tout nouveaux. Le moyen d'âge est très basse, il y a une dynamique militante, je vais en parler un peu plus tard. Un savoir-faire en utilisation des réseaux sociaux, donc tous les jours, et ça passe et ça circule très vite. Aussi pour des questions que les gens qui sont pas comme... notez aussi le style populaire, hein. We're going after, hein. Aussi des questions qui sont plus pour des gens qui ne sont pas sûrs. Hein. Parce que les communistes purs et durs disent, bon, on trouvera l'argent. Et donc là, c'est en détail comment ils pensent trouver l'argent. Donc c'est, bien sûr, c'est pour convaincre les gens qui ne sont pas des communistes purs et durs. Et aussi un certain savoir-faire dans les slogans. Parce que c'est sûr qu'on est partiellement dans le, comment dire, on est partiellement dans l'époque des soundbites, comment on dit ça en français, des bouchées de son, des soundbites. Et donc j'ai trouvé deux slogans là que je trouvais intéressants. Il y avait Labour is the party of the new common sense, donc c'est assez classique, mais quand même pour le changement. Et j'aime bien Labour stands for the race for the job, not for the race to the bottom. Alors c'est difficile à traduire. Labour stands for the rate for the job, not for the race to the bottom. Donc le parti travailliste défend un prix juste, un salaire juste pour un boulot bien fait. Et c'est un terme ouvrier, et pas une course vers le bas, c'est-à-dire en réduisant tout ce qui est mesures de sécurité, mesures écologiques, etc. Bien sûr, il y a de très nombreux obstacles au courant Corbyn, les députés hostiles, ses propres députés hostiles, le traitement médiatique, mais aussi le bas niveau de combativité parmi les salariés au Royaume-Uni. En général, si vous avez un nouveau gouvernement qui veut changer beaucoup de choses très rapidement, c'est mieux s'il y a une population assez mobilisée. C'est moyennement le cas. En effet, le nombre de journées de grève au Royaume-Uni depuis 20 ans 5 fois inférieur à le nombre en France, 3 fois inférieur à le nombre en Belgique. Alors, je ne vous ai pas donné des détails sur les réformes que promet le manifeste du Parti travailliste. C'est sans doute des plus grandes réformes, même qu'en 1945. C'est extrêmement ambitieux. Abolition des frais de formation dans les universités. Investissement massif dans les services publics, une vague de nationalisation assez importante. Donc quelque chose en tout cas qui n'a pas été fait dans les grands pays d'Europe depuis 1945. Il a certainement un gros problème. Voilà, ils étaient sur le prochain. J'essaie de les mémoriser, mais ils étaient dans le prochain mime. La semaine de travail de 32 heures. Vous voyez, la fin il ne faut plus payer pour les médicaments, etc. etc. Donc, quelque chose, donc, comme je dis, bien plus à gauche que Wilson dans les années 70, que Blair dans les années... Il faut revenir en 1945 pour voir un manifeste aussi radical. Les gens ils disent que le manifeste 83 était également très à gauche, mais je ne pense pas que c'était aussi à gauche en tout cas. La presse, bien sûr, n'est pas très gentille avec lui. C'est très anglais aussi. Il n'y a pas une tradition en France d'insulter les dirigeants politiques en première page de la même façon. Donc là, on a The Sun et The Daily Mail. The Sun, c'est le journal le plus populaire. Souvent, les gens ils l'achètent pour le sport. Mais c'est très. Tandis que The Daily Mail, c'est très classe moyenne. Hein. C'est très classe moyenne. Mais ce n'est pas que ça, il y a aussi The Times, parce qu'il y a eu, je parlais brièvement de cette campagne de diffamation d'envergure historique, où au début, c'était l'ami des terroristes, puis c'était, pendant un moment, c'était un espion tchèque, j'invente pas, puis il était trop vieux et un peu malade et sans doute n'arriverait pas à durer très longtemps. Et puis la dernière, et celle qui a marché le mieux, c'est que Corbyn est antisémite. Personne ne le croit sérieusement. C'est vraiment une campagne de diffamation très, très pure. Et d'ailleurs, il est député depuis 30 ans, quelque chose. Et vous pouvez regarder la liste des différents petits projets de loi qui ont été proposés contre l'antisémitisme ou pour des intérêts de la communauté juive. C'est le genre de petits projets de loi où ils ont 20 signatures de députés et ça va nulle part. Et il les a signés tous, parce que c'était comme ça. Vraiment, c'est une manipulation, mais de taille historique, vraiment de taille historique. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et les gens, beaucoup de gens ont oublié comment marchent les campagnes de diffamation. Et je pense que les gens, moi, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été extrêmement naïfs. Parce qu'il y a de l'antisémitisme dans la société britannique, comme ailleurs. Et sans aucun doute, on peut en trouver parmi les 500 000 membres du Parti travailliste. Mais les gens, ils ont été, à mon avis, extrêmement... En tout cas, le Parti travailliste donc, doit naviguer le Brexit, la question du Brexit. Alors, le Brexit ne peut pas être une question de principe pour la gauche radicale. L'Union européenne a imposé un rythme précis de progression du néolibéralisme. Obligation de mettre les services publics en concurrence avec les services privés, etc. Alors sortir de l'Union européenne pouvait donner lieu à beaucoup plus de néolibéralisme ou beaucoup moins selon les rapports de force. Alors qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il pense faire la direction du Parti travailliste? Bon, c'est un compromis, ils ont un gros problème. Deux tiers des électeurs travaillistes ont voté Remain et un tiers a voté Leave. Et alors, il y a une grosse pression dans le parti pour devenir le parti du Remain, ou du Revenir, maintenant. Mais c'est très problématique, pas seulement pour... Il y a deux problèmes là-dedans. Premier problème, c'est le problème de ceux qui pensent que l'Union européenne n'est pas une chose à défendre. Et alors, il peut y avoir un problème de principe. Mais même du point de vue du calcul, les 30% qui ont voté Leave, c'est la partie la plus classe ouvrière, et c'est autour d'eux que se trouve la réserve d'électeurs le plus grand. Parce que c'est les couches de population qui votent moins. Donc ça c'est la difficulté, si vous voulez, stratégique de la direction travailliste. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de forces à l'intérieur du parti qui essaient de jouer. Bon, bref, le compromis proposé par Corbyn a gagné lors du congrès du Parti travailliste, mais il n'est pas très stable. Alors, c'est quoi le positionnement? L'idée, c'est de rejeter l'accord conservateur, de gagner une élection générale. Bien sûr, ils ne peuvent pas gagner, mais normalement, on prévoit de gagner. De proposer une union douanière, un nouvel accord beaucoup plus proche de avec l'idée que ça pourrait peut-être satisfaire à la fois la majorité qui a voté BIV et une partie de la minorité qui a voté Remain, parce qu'il y aurait quand même une union douanière et une relation très, très, très proche. Cependant, la pression à l'intérieur du Parti travailliste pour tenter de renverser la décision et demander un deuxième référendum est très fort, notamment parmi les députés travaillistes. Et il y a eu donc samedi dernier, on a vu les résultats immédiats. Jeremy Corbyn était à Liverpool pour un grand meeting, au fond un meeting préélectoral, où il répétait sa conviction que ceux qui votaient Leave et ceux qui votaient Remain avaient surtout les mêmes intérêts pour combattre l'austérité. John McDonnell, porte-parole travailliste pour les finances, à la même heure, intervenait à la tribune lors de la grande manifestation pour un deuxième référendum. Donc voilà, il y a une division assez forte. Le débat continue donc de ceux qui votent travailliste. Ou bien mettre au centre de la politique l'idée de revenir dans l'Union européenne, ou bien chercher avant tout un gouvernement de la gauche radicale, sans doute accompagné par un soft Brexit. Chaque équipe a ses arguments. Pour les premiers, ceux qui veulent avant tout revenir dans l'Union européenne, les travaillistes ne peuvent pas gagner une élection sans les voix des millions de Remainers remontés. Pour les seconds, la manifestation de samedi dernier, sans implication syndicale significative, est composé surtout de gens qui manifestent peu, ne montre pas une force sociale massive et ne peut pas enlever la légitimité des 17 millions qui ont voté Leave. J'ai pas beaucoup de temps, alors je vais sauter un petit peu et en venir à d'autres partis. Je peux parler des libéraux démocrates plus tard si vous voulez, mais je veux parler de UKIP, donc United Kingdom Independence Party, établi dans les années 90, à son point plus fort, il a obtenu 4 millions de voix. En 2014, il a obtenu 24 sièges au Parlement européen sur les 73 dont dispose le pays. Donc ça, c'est avant le référendum. En 2014, il avait une vraie assise basée sur le Brexit, mais aussi voulant aller plus loin. C'est un parti de la droite dure. Lors du référendum, il était vu comme un parti avec un grand avenir, prêt à diriger le pays si le Leave l'emportait, mais il s'est depuis effondré. Il n'a plus que 33 conseillers municipaux dans le pays entier. Ça c'est une affiche du UKIP. Quand ils avaient 4 millions de voix, c'était 43% qui venaient des électeurs conservateurs, 18% qui venaient des électeurs libéraux, et 14% des travaillistes. Ça s'est effondré après le référendum. Farage, le dirigeant Nigel Farage, a démissionné comme dirigeant. Il fut remplacé par Diane James, qui a duré 18 jours. Et depuis, c'est les décollades sur base de, petites phrases islamophobes, petites phrases homophobes qui les a discrédités, alors a poussé à la démission les différents dirigeants. Alors, le tout dernier chose est absolument fabuleuse, c'est celui-là. Il y a quelques semaines, le dirigeant boycottait son propre congrès. Alors, quand le dirigeant de votre parti boycotte le congrès de votre parti, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Alors pourquoi ça? Alors des désaccords internes sur l'utilisation du racisme. Nigel Farage n'hésitait pas à utiliser le racisme dans des expressions du genre « il y a des quartiers où on n'entend plus la langue anglaise », ce genre de langage codé. Mais en même temps, il voulait que le parti limite la visibilité du racisme. Donc il mettait en avant les quelques membres noirs, le député UKIP pour une partie de Londres était asiatique, etc. Mais la direction après Farage mettait en avant des fascistes connus, comme Stephen Yaxley Lennon, connu sous son nom de scène Tommy Robinson. Et puis aussi, l'organisation militante Stand Up to UKIP a été, à mon avis, très efficace. Et ça, c'est parce que quand un parti de la droite dure qui monte essaie de stabiliser une structure dans chaque pays, dans chaque ville, un bureau dans chaque ville, avec une équipe militante dans chaque ville, ils sont beaucoup plus vulnérables à l'activité de 10 000 gauchistes énervés. Ce n'était pas tous des gauchistes, il y avait des écolos, etc. Mais c'était qu'une campagne de quelques milliers de personnes peut avoir beaucoup d'effets, pas sur l'opinion publique en général, mais sur un parti qui essaie de se reconstruire. Chaque fois que Youpi faisait un meeting, il y avait 200 personnes devant à crier « ce sont des racistes ». Et alors, les membres du UKIP qui avaient prévu de venir avec le belle-mère et le voisin, finalement, ils sont restés chez eux parce que ce n'était pas prêt pour ça. Et alors, c'est une question de quel est le point d'appui, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un autre parti, le parti du Brexit de Nigel Farage, est-il le dirigeant le plus en vue de l'UKIP. Donc il a quitté l'UKIP pour former un nouveau parti en mai 2019, le parti du Brexit. Alors c'est un recul évident car un parti tel que United Kingdom Independence Party aurait été une base bien plus solide pour une recomposition de la droite dure, de la droite extrême. Nommer un parti sur une seule question comme le parti Brexit, c'est une question plus délicate de le faire durer. Ils ont quand même eu un grand succès lors des élections européennes en mai. La majorité de la population était convaincue que le pays allait sortir de l'Union. Et alors la campagne électorale était étrange. On ne pouvait pas débattre des politiques qui devaient suivre l'Union européenne parce qu'on était sur le point de partir. Résultat, en tout cas, le Brexit Party a gagné 29 sièges. Il en avait 14 précédemment. Les libéraux démocrates sont passés de 1 à 16, plutôt sur une base de Remain. Les travaillistes sont passés de 18 à 10. Et les conservateurs de 18 à 4. Mais tout cela sur la base d'un taux de participation bien en dessous de 40%. Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je n'ai que 5 minutes, mais je vais faire quelques petits éléments. Il y a beaucoup de questions très compliquées. Là, j'ai écouté sur l'agriculture. C'est fascinant. Alors, ça va être très compliqué pour l'agriculture, surtout pour la logistique. Et la seule bonne chose, selon l'écolo qui en a parlé, c'est que la politique agricole commune donne essentiellement presque tout l'argent à des grands fermiers. Une politique indépendante pourrait avoir une approche plus écologique. C'est peut-être surtout l'Union européenne lui-même. Alors il est presque certain, à mon avis, que le Royaume-Uni finisse par réussir à sortir. C'est un recul pour l'Union européenne. 12% de la population de l'Union et 13% du PNB qui s'en va. Mais cela pourrait avoir des avantages. D'abord pour les pays individuels, le président français Emmanuel Macron a invité à un dîner il y a quelques mois les PDG de toutes les compagnies automobiles installées au Royaume-Uni. Si jamais vous fermez une usine là-bas, peut-être chez nous ça ira mieux. Le gouvernement allemand aimerait qu'une partie des entreprises financières à Londres, installées à Londres, déménagent à Francfort. C'est le centre financier du monde. D'ailleurs, si vous partez en vacances et vous vous sentez obligé de prendre une petite assurance voyage, comme ça peut arriver si on a peur d'être malade, vous regardez dans les petits mots, c'est à Londres. À tous les coups, c'est à Londres, votre police d'assurance. Alors, cette idée de transférer l'industrie financière en Allemagne, ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'on en avait déjà parlé, on avait dit que dès la fin du référendum, qu'il y aurait un transfert. En fait, non. La part du marché les devises du Londres est passée de 37 à 43% depuis 2 ans, tandis qu'à Wall Street, le part a baissé de 20 à 17%. Et le marché à terme est passé à Londres son part de marché de 38 à 50%. Alors je ne suis pas un expert dans le domaine. J'ai l'impression que, mine de rien, c'est une énorme industrie de la finance à Londres, avec des dizaines de milliers de personnes. Et je ne pense pas qu'on trouve le bon nombre de spécialistes aussi facilement que ça, même à Francfort. Pourquoi Francfort et pas Paris? Parce qu'ils parlent anglais en Allemagne. C'est un peu vrai. Si vous voulez 1 000 financiers qui parlent parfaitement anglais, il vaut mieux être à Francfort qu'à Rouen. Voilà, et donc je vais arrêter là parce que ça fait quasiment une heure, j'ai pas tout dit. Je voulais dire un petit mot sur l'Irlande. Alors c'est l'histoire de la domination britannique qui revient hanter le gouvernement britannique, parce que si c'est un accord à la Johnson qui est pris, il y a une frontière douanière entre l'Angleterre et l'Union et l'Irlande du Nord, et pas de frontière, ça ne peut que d'être un soutien symbolique à une unification éventuelle de l'Irlande. Ça ne peut que l'être. Et d'ailleurs, les arguments qu'utilisaient souvent les unionistes au Nord, qu'on ne peut pas se réunir avec le Sud parce que ce sont des catholiques très à droite et socialement très très à droite. Et bon, c'est le Sud qui a voté le mariage gay avant le Nord, et la majorité des catholiques pratiquants en Irlande du Sud ont voté pour le mariage pour tous. L'avortement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est la même chose. Depuis hier, il n'y a plus de différence avec l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord vient de rejoindre le Sud. Donc, il y a aussi une question générationnelle. Est-ce que les unionistes purs et durs, est-ce qu'ils sont tous vieux? Ils ne sont peut-être pas tous vieux, mais ils ont un problème de génération. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une possibilité d'un processus soft qui finirait une réunification d'Irlande? Bon, c'est justement comme... Je suis historien et l'avenir n'est pas ma période. Voilà. Je vais laisser.